Chapitre 5. Opinion d'un auteur sur les visites. Lorsque la famille fut appelée pour prendre le thé, Camilla, en entrant dans le salon, trouva Sir Hugh causant tristement avec Edgar de la disparition du docteur Hawkburn. Edgar fut un instant déconcerté lorsqu'il s'aperçut qu'elle ne portait point ses fleurs, mais il supposa qu'elle les avait mises dans l'eau. Quelques minutes après, Indiana parut, les ayant sur son sein. Il se retourna vers Camilla, qui, affectant un air indifférent, jouait avec le vieux épagneul de son oncle. Aussitôt qu'il put se dégager du baronnet, il se pencha sur le chien et dit à voix basse à Camilla « Vous avez donc disgracié mes pauvres fleurs ?»« N'ai-je pas bien fait ?» répondit-elle du même ton. « Elles sont où vous devez être charmé de les voir. » Alors il vit Miss Margland qui s'approchait. « Ne pensez-vous pas, dit celle-ci, Monsieur Mandelbert, que ce bouquet va bien à Miss Windmere ? Elle a pris du goût pour les fleurs, et je pense qu'elle peut se parer de celle-là. »« Elle leur fait beaucoup d'honneur, » répliqua froidement Edgar. « Il ne l'aime donc pas, » se dit Camilla, tremblante et s'imposant la loi de redoubler de circonspection pour ne pas confirmer le soupçon que l'indifférence d'Edgar était produite par les efforts qu'elle faisait pour se l'attacher. Les yeux d'Edgar étaient sans cesse occupés à suivre Camilla, bien qu'ils n'adoptent pas un seul regard. Elle jouait avec le chien, parlait à Eugénia, regardait par la fenêtre, et tout cela d'un air de négligence qui, tout à la fois, couvrait sa peine et montrait une intention affectée de ne point prendre garde aux dispositions d'Edgar. Moins il s'attendait à ses manières, et plus elle l'offensait. Aussitôt que Camilla eut pris son thé, elle sortit. Un doux espoir que le cœur d'Edgar n'était point touché d'Indiana s'empara délicieusement de son imagination. Mais bientôt, le souvenir de l'assertion de Miss Margland que ce cœur était le bien de sa cousine vint lui ôter toute idée de bonheur pour l'avenir. Elle ne put que répéter « Il me faut partir demain, je ne dois point m'occuper de lui, demain je partirai. » Elle avait à peine quitté le salon que le bruit éloigné d'une voiture tira Sir Hugh de sa perplexité. Suivi d'Edgar et des femmes, il se hâta d'aller dans la cour où le carrosse entrait. Il dit aussitôt au cocher d'arrêter. Il appela. « Je vous prie, docteur Hawkburn, êtes-vous là ?» Le docteur mit la tête à la portière et fit une inclination respectueuse. « Miséricorde, je croyais n'avoir jamais le bonheur de vous revoir. Vous êtes, je vous jure, le bien arrivé. » Car en honneur, et je ne voudrais pour rien au monde proférer un mensonge, on m'avait rapporté que vous commenciez à perdre l'esprit. » Le docteur ne fit point la plus légère attention à ce propos, et la voiture arriva jusqu'à la porte. Sir Hugh, s'asseyant sous le vestibule, « Permettez, docteur Hawkburn, avant que vous retourniez à vos études, que je vous demande où vous êtes resté tout le jour et pourquoi vous n'avez pas suivi Eugénia. « Je crois que cela n'est point un secret, puisque Jacob était avec vous, indépendamment du cocher et des chevaux. » Le docteur répondit qu'il devait d'abord s'occuper de ses livres. « Les pauvres enfants, continua le baronnet, elles sont arrivées à la maison toutes pâles. Elles n'ont pas su jusqu'à ce moment que vous dussiez les rejoindre, ce qui les aurait peut-être embarrassées. Mais comme je suppose que vous étiez parti à jeun, je ne puis savoir où vous aurez pu dîner, à moins que vous n'ayez la bonté de me le dire. » Le docteur, trop occupé pour entendre, arrangeait ses livres et se préparait à les monter à sa chambre. « Allons, laissez là vos livres. Jacob peut les monter, ou Bob, ou tout autre. Allons, Bob, dépêchez-vous et portez tous ces livres dans la chambre du docteur, pourvu toutefois que vous puissiez trouver place pour eux. Mais je m'occuperai bientôt de cet objet et je ferai disposer les choses pour le mieux. » Bob obéit. Et montant sur le marchepied de la voiture, il prit tout ce qui se trouvait à sa portée. Le docteur l'aperçut, lui arrachait les volumes des mains et lui défendit d'un ton solennel de jamais toucher à un seul de ses livres ou de ses papiers. Jacob, s'approchant de son maître, lui dit à l'oreille de ne point s'en mêler, l'assurant que le docteur allait être pris d'un de ses vertigos. Sir Hugh, effrayé, se leva pour retourner au salon. Jacob, appelé pour raconter les événements de la journée, prit la parole. Aussitôt que nous fûmes arrivés à Grove, je demandai d'abord au docteur s'il voulait entrer ou seulement envoyer dire aux jeunes lady qu'il était venu pour elle. Il ne répondit pas. Je lui criai trois fois aux oreilles. Il me regarda sans rien dire. Alors j'ébranlai si fortement la voiture que la secousse fit tomber de sa main le crayon et le papier. Alors il se redressa d'un air d'humeur et prétendit que j'avais troublé ses idées. Voyant qu'il le prenait ainsi, j'ai cru que je perdais mon temps à lui parler, et je me décidai à ne plus songer à lui, quand j'ai aperçu aux fenêtres du salon une si nombreuse compagnie qui riait de si bon cœur que je n'ai pu douter qu'elle nous eût entendus. Une très belle dame, que j'ai su depuis être la maîtresse de maison, m'appela, me demanda ce que j'attendais. Je lui dis que nous venions pour deux des demoiselles Tyrold. « Il y a près d'un quart d'heure, répondit-elle, qu'elles sont parties par la route opposée. Je m'en allai lorsqu'elle me fit signe d'entrer. Alors ils m'adressèrent la parole tous à la fois, ce qui faisait à mes oreilles un tel tintamarre que je me suis cru dans quelque baraque de foire. Certainement, toute cette bande était très gaie, et singulièrement la maîtresse de la maison, qui n'avait encore rien dit. Mais tous riaient. Quant à ce qu'ils m'ont demandé, j'aurais bien de la peine à m'en souvenir. « Essayez, » dit Edgar, curieux de connaître quelques nouvelles particularités relatives à Mistress Arlberry. « Vraiment, monsieur, » répondit Jacob en ouvrant de grands yeux, « je le voudrais bien, mais je ne suis pas certain que cela vous fît plaisir. »« Et pourquoi donc ?»« Oh, parlez, Jacob !» s'écria Miss Margland. « Ont-ils dit quelque chose de monsieur Mandelbert ?»« Oui, miss, et d'autres personnes aussi, » continua Jacob en riant. « Parlez, parlez !» dit vivement Miss Indiana. « Mais je crains, miss !» On l'assura que personne ne se tiendrait pour offensé. « Eh bien, si vous le voulez absolument savoir, chacun de vous a eu son paquet. Je vous prie, disait l'un, que fait ce vieux gentilhomme dans le carrosse, avec tous ses livres et tous ses papiers? Est-ce qu'il sait lire ?»« Comment dis-je, il ne fait rien autre chose depuis le matin jusqu'au soir. » « Et vous êtes à son service ?»« Lui, mon maître, leur dis-je. Non pas, Dieu m'en garde. Et de quoi vivrais-je s'il l'était ? De toiles d'araignée, sans doute. » Ici, Sir Hugues interrompit Jacob avec gravité. « Si ce bon et brave homme est pauvre, dit-il, ce n'est pas sa faute, car il serait riche s'il le pouvait, et je n'en doute pas. Je n'ai jamais ouï dire qu'il fût joueur. D'ailleurs, je respecte toujours un homme à raison de sa pauvreté, sachant combien il est possible qu'un homme riche en fortune soit peu riche en science, ce dont je puis juger par moi-même. » Jacob continua. « Mais si ce n'est pas Sir Hugues, reprit une personne de la compagnie, qui est-ce donc ? » ?»« C'est notre maître de latin. » Alors tous firent un éclat de rire, car ils sont vraiment gais. « Et qui donc apprend le latin chez vous ? J'espère que ce n'est pas le pauvre vieux Sir Hugues. » « Non, dis-je. D'abord, on a voulu l'essayer, mais il n'avait pas de disposition. »« Qui donc ? Est-ce vous ? » ?»« Moi, que Dieu m'en garde. Je sais lire, écrire un peu, et c'est tout. » « Que cette coterie est oisive, dissipée, curieuse, » pensait en lui-même Edgar. « Comment Camilla pourrait-elle se lire avec elle ? Camilla, vive, sans expérience et sans réflexion. » « Alors on me demanda, continua Jacob, si c'était Miss Winmer. Non, pas que je sache, je n'ai jamais ouï dire qu'elle courut beaucoup après les livres. Je pris mise de ne pas m'en vouloir, car ils disent tous qu'elle était trop belle pour cela. » Indiana ne sut si elle devait être flattée ou offensée de ce propos. Miss Margland, prenant la parole, « Mais vous ne rapportez pas, dit-elle, ce que vous avez entendu sur M. Mandelbert. » « Je dois d'abord passer à ceux qui vous regardent, car ils m'ont parlé de vous après Miss Indiana. Mais peut-être ne conviendrait-il pas que je répétasse ce qu'ils ont dit. »« Oh, vous pouvez parler !» reprit Miss Margland. « Je suis indifférente à tout ce qu'on peut dire de moi, tenez-le pour certain. »« Je suppose, disent-il, que ce maître de latin étudie surtout avec la gouvernante. Elle a l'air revêche, elle a toujours l'air de manger une pomme, bien sûr. » C'était la maîtresse de maison qui s'exprimait ainsi. « Elle a l'air ?»« Allons, fort bien, je n'ai pas besoin d'entendre davantage leurs opinions. J'ai l'air qui me plaît, j'espère, que je hais tous ces caquetages de femmes. » Alors ils ont dit, « C'est donc Miss Camilla qui apprend le latin ?»« Non, vraiment, que Dieu l'en garde. » Et qu'ont-ils répondu ? Dit Edgar avec beaucoup de vivacité. Ils ont prétendu qu'ils étaient bien aises d'entendre ce que je leur apprenais, qu'ils aimaient Miss Camilla comme la meilleure de toutes. « Et que fait donc la petite boiteuse ? » ont-ils ajouté. À présent, Jacob, vous pouvez vous en aller. Nous en avons assez entendu, dit en l'interrompant Edgar, très offensé pour la pauvre Eugénia qui venait de sortir avec Camilla. Non, non, répliqua Miss Margland, continuez. Alors, dit Jacob, on en vint à M. Mandelbert. À quoi passe-t-il, dirent-ils, le temps chez vous ? À rien de particulier, il sert seulement d'écuyer à nos jeunes dames. Quand se fait le mariage ? Mais, continuai-je. Qu'avez-vous répondu ? S'écria Mandelbert avec précipitation. Rien, dit Jacob. Voyons ce qu'ils en ont dit, reprit Mrs. Margland. Ils ont dit que tout était prêt à Beech Park depuis quelque temps et que cela ferait le plus beau couple qu'on eût jamais vu. Edgar dit, quel est donc ce conte, je vous prie ? Jacob, vous feriez mieux de nous laisser. Non, non, continuez, Jacob, dit aussitôt Miss Margland. Indiana ne put retenir un sourire, mais Edgar, qui ne pensait qu'à Camilla, n'y comprit rien. Est-ce tout ? Demanda Miss Margland. Non, madame, mais je ne sais pas si Miss... Oh, dites, répliqua vivement Indiana, si c'est de moi qu'on a parlé, je ne m'en embarrasse nullement. Alors tous soutinrent que vous ferez la plus belle mariée qu'on eût jamais vue, qu'il n'était pas étonnant que M. Mandelbert vous eût choisi, mais surtout... Jacob s'arrêta. Edgar, qui, suivant le fil de ses idées, avait jusqu'à ce moment cru qu'il était question de Camilla, fut confus en découvrant sa méprise. La présence d'Indiana augmentait encore l'embarras de sa situation. La rougeur de la jeune personne, l'éclat qui brilla tout à coup dans ses yeux, montraient assez que ce qu'on lui rapportait ne lui déplaisait pas et n'était pas entièrement nouveau pour elle. Miss Margland leva la tête d'un air de triomphe. Elle voyait dans tout cela la preuve décisive de l'exactitude de ses assertions. Le baronnet, également satisfait, répondit par un signe de félicitation. Et, détournant sa tête du côté d'Edgar, « Eh, mon ami, dit-il, voilà vos secrets éventés. Pourquoi tous ces airs de mystère ? Dieu me garde, je ne vous avais jamais vu si mystérieux. » Edgar, encore plus déconcerté, pressa Jacob de continuer. « Ils en ont ajouté bien d'autres. S'ils faisaient sagement, a dit la maîtresse de la maison, ils laisseraient là cette beauté parfaite et prendraient la jolie petite Camilla. » Edgar, surpris, s'arrêta. « Elle est charmante, Camilla. Cependant, elle a besoin d'être encore un peu suivie, quoiqu'elle ne fasse rien qui ne soit à faire. » « Cette femme, dit en lui-même Edgar, ne manque ni de discernement ni de goût, et je sens que je ne pourrai pas la prendre totalement en aversion, puisqu'elle rend ainsi justice à Camilla. » Jacob raconta, pour finir son récit, que Mistress Arbery, qui s'amusait à considérer à travers la croisée le docteur Orborn, voulut faire une expérience. Elle soutint que si Jacob ne retournait point au carrosse avant d'être appelé, le docteur ne sortirait de la profondeur de ses méditations qu'après que tout le monde aurait dîné. Par les ordres donc de Mistress Arbery, Jacob et le cocher partagèrent le repas des domestiques et les chevaux mangèrent l'avoine. Après quoi, le docteur Orborn, revenant tout d'un coup à lui-même, demanda pourquoi les jeunes demoiselles étaient si longtemps à venir et fut tout déconcerté quand il eut appris qu'elles étaient parties. Cependant, il se remit à l'étude dans la voiture, donna par distraction l'heure du retour, et revint sans avoir dîné. Sir Hugh lui fit porter quelques pièces froides dans sa chambre et déclara qu'il approuvait la connaissance de sa nièce avec Mistress Arbery, puisqu'elle avait été si obligeante envers ses domestiques et envers ses chevaux.